pas sous ces... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas quelque chose. Hein, et je voudrais que vraiment on se rende compte que c'est une idée qui est venue d'ici, de chez nous, de notre organisation. Et Sandra va continuer son travail. Notre organisation va continuer à travailler dans ce sens et il ne faut pas que quelqu'un d'autre s'approprie des bienfaits, des bénéfices de ces résultats. Bien, puisque nous sommes dans le sujet de l'Académie d'ICANN et puisque nous avons le temps, ce qui est assez inhabituel, je pensais que Salah étant dans la salle, elle allait pouvoir nous donner une remise à jour ou une mise à jour concernant la formation de compétences. Puisqu'il y a eu un atelier de formation de compétences hier, Salah, si vous voulez, allez. Je vous mets un petit peu dans une situation difficile, mais je pense que vous avez des choses intéressantes à nous dire, Salah Nieta. Salah Nieta, mais très rapidement, nous avons travaillé avec les RALO et avec les ALS en termes de renforcement des compétences au sein de la communauté à large, pour voir ce dont nous avions besoin, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait construire, qu'est-ce qui existait. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, la réunion avec le Conseil, on a abordé au cours de cette réunion l'intérêt public mondial et la légitimité de At large et pour représenter l'intérêt des utilisateurs finaux et la capacité de donner lieu à une participation réelle des groupes au sein d'At large. Il faut se souvenir des structures At large et de la façon dont nous voulons les intégrer au processus de politique. Hein. Je suis très heureuse de vous dire que nous avons une liste qui contient des informations mises à jour qui viennent du tableau de bord. On a corrigé le tableau de bord. On a communiqué avec le staff pour faire des communications sur le site Internet concernant les coordonnées des ALS et ce genre de choses. Et on a aussi regardé les groupes des ALS, les regroupements des ALS pour identifier le type de membership, le type d'intérêt qu'ils peuvent avoir. Donc, j'ai eu le plaisir de le présenter lors de la réunion de Naralo aujourd'hui, d'en parler en tout cas, et de voir que vraiment, et il y a une série de détails qu'ils ont utilisés pour les membres, hein. Mais en termes de formation de conséquences, nous sommes en train de regarder cette information, voir les synergies potentielles qui existent au sein de la communauté d'At large. Nous voulons travailler avec les ALS, avec les bureaux d'enregistrement, avec les opérateurs de CCTLD, où les ALS peuvent aussi avoir certaines relations. Donc, voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait augmenter ce type de synergie entre les différents acteurs pour identifier des stratégies et créer donc davantage de synergies. Et si cela signifie une formation de compétences au sein des régions ou des pays en face à face, ou si cela signifie une formation de compétences en ligne, Sandra est en train d'analyser un peu la communauté dans ce sens. Donc, nous en sommes encore à la phase de conception de la stratégie en nous basant sur les informations données par les analyses de tendances que nous avons faites. Cela figure sur le wiki. Donc, s'il vous plaît, allez-y et regardez. Merci beaucoup, Salah. Est-ce qu'il y a des commentaires, d'autres questions? Merci, Olivier. Victor Donam de ISOC Cameroun. J'ai un besoin de précision de la part de Salah. Quand est-ce que vous pensez que les quand vous dites que les ALS peuvent aussi fonctionner comme registre ou comme candidat de nouveaux registres de CCTLD ou des opérateurs de réseau, et selon ce que je sais, il y a des groupes, des regroupements dans ICANN qui concernent ces groupes. J'ai aussi participé à cette séance ce matin, à cette session, à cette réunion ce matin. Je suis arrivée en retard, je m'en excuse, parce que je pense que nous avons une mission au niveau de la liste de diffusion. Dans le passé, la motion d'ICANN était un monde en Internet. C'était donc le. Ensuite, on a enlevé et tout le monde était connecté. Ensuite, on a enlevé, tout le monde était connecté parce qu'on est censé focaliser sur un monde, un Internet. Peu importe la partie de connexion. Mais maintenant, ce que je vois, c'est que ICANN est en train de revenir à cette mission, essayer de connecter les gens, essayer de faire d'autres choses. Et j'aurais besoin des précisions à ce propos parce que je suis un peu perdue. Merci. Salagnetta. Merci, Hélène. Merci, Victor. Excusez-moi. Je voudrais rapidement vous dire que, comme la plupart d'entre vous le savent, ICANN est une organisation de soutien, de groupement, de comité consultatif. Mais dans la mesure où, en ce qui concerne At Large et dans le contexte du groupe de travail, nous, dans le domaine de formation de compétences, nous essayons d'exécuter les statuts de ICANN, c'est-à-dire travailler pour faciliter la communication. Merci. Fatimata, vous avez la parole. Merci, Olivier. Fatimata prend la parole. Salah, je pense que ce que Olivier demande, non, pardon, ce que Victor demande, c'est trompé de nom. Parce que je me demandais aussi si vous pensez vraiment ce que vous dites lorsque vous dites que les CCTLD et les autres registres peuvent être des ALS. Est-ce que vous le pensez vraiment? Bon, je vais vous donner un petit peu de contexte pour cette question et je vais faire allusion à mon premier commentaire aussi. Lorsque on a fait un recueil de ces indicateurs, nous avons réuni tous les indicateurs, nous avons vu comment nous pouvions les utiliser pour les rendre plus utiles, pour créer, pour concevoir une stratégie. Et donc, on a pensé qu'il fallait qu'on regarde la nature des ALS et leur composition, surtout leur nature. Certaines ALS sont des opérateurs de CCTLD. Certaines des ALS sont des bureaux d'enregistrement potentiel. Mais la raison pour laquelle je dis cela, c'est que pour la formation de compétences, les informations intéressantes, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ces ressources, ces compétences, particulièrement en termes de formation de compétences basées sur certains sujets. Par exemple, si on fait une compilation d'informations sur les programmes que nous voudrions présenter pour que les gens comprennent mieux le CCNSO. Par exemple, on va pouvoir écrire à nos ALS, aux ALS qui ont des expertises dans ce domaine, de participer. Vous comprenez? Pour leur donner davantage de pouvoir et utiliser leurs capacités. Il y a certaines ALS qui se focalisent sur... Par exemple, en Arménie, on a une société. Ils pourraient peut-être défendre ou protéger des choses comme, par exemple, le WTC. Et les ALS peuvent peut-être ne pas le faire, mais en tout cas, identifier des indicateurs potentiels, voire des experts qui pourraient travailler dans certains domaines, par exemple. Fatimata reprend la parole. Merci, Salah. Je pense que je comprends ce que vous dites. Et pour Victor, je pense que vous parlez donc de représentants qui portent des casquettes de la société civile. C'est ça ce que vous voulez dire? Oui, Salah, oui, reprend la parole. Oui, plus ou moins. Alors, de nouveau, je dirais que les ALS sont toutes différentes les unes des autres. Charles Langdenon. Merci. Merci, je voudrais expliquer. Charles Langdenon prend la parole. Donc, porter une casquette d'opérateur de CCTLD et porter une casquette de liaison de CCNSO, par exemple. Il faut être clair hein, là-dessus. D'abord, pour la diversité, hein, on a besoin de reconnaître la diversité, de la célébrer, de savoir qu'il y a une grande divergence hein, au niveau des statuts socio-économiques dans tous les pays dans lesquels on voudrait faire davantage de sensibilisation. La question de partenaires publics, privés, mais il faut aussi attendre qu'on attend de structures qu'elles nous expliquent maintenant ce qu'elles veulent, ce qu'elles disent. Hein. C'est bon, c'est bien. C'est ce que les déclarations d'intérêt veulent faire et c'est ce que la divulgation veut faire aussi. Donc, je ne sais pas s'il s'agit d'un registre ou d'un bureau d'enregistrement, s'il en a une ALS qui est plus qui représente des opérateurs individuels, c'est très rare, mais ça peut exister. Donc je vois ce dont vous parlez. Cependant, lorsqu'on regarde, je voudrais vous rappeler que les opérateurs de CCTLD, qu'ils soient des membres du CCNSO ou pas, les opérateurs de CCTLD ont une exigence, et c'est d'interagir avec et de trouver quel est le meilleur intérêt de la communauté locale Internet. Et c'est ce lien qui existe et dont on peut tirer profit parce que si c'est une petite opération, il n'y a rien de mal là-dedans, hein. Parce que finalement, ces petites choses donnent des bons résultats. Donc, une personne, peu importe la casquette qu'elle porte, hein, l'important, c'est que je pense qu'on devrait faire une transition ici, sachant que cela pourrait être une façon pour nous de trouver, de savoir où se trouve l'intérêt des communautés locales et d'Internet, où se trouvent les gens qui pourraient représenter l'intérêt d'Atlarge, d'où elles pourraient venir, ces personnes. Hein. Lorsqu'on arrive à travailler dans ce domaine-là, les modèles du pays, savoir où se trouvent les membres du GNSO, les opérateurs de CCNSO, savoir s'ils ont joint les organisations d'ICANN, qui s'appelle l'organisation de soutien de CCNSO, où sont ces soutiens, si nous avons des structures à large, et des fois nous en avons, il faudrait regarder aussi cela, où se trouvent les membres du GAC aussi. C'est donc une occasion de partager certaines choses. Si l'on doit dire au CCNSO qu'il y a une attente. Hein? Je vous garantis que ça va permettre de recevoir une réponse parce que ce que nous allons faire, hein, c'est dire non, certains de nos membres ne veulent pas ceci ou ne veulent pas cela et s'ils ne le veulent pas, hein, donc ça ne va pas marcher. Donc il faut le considérer comme une occasion, pas comme une attente. Comme une occasion. Je pense qu'on ira plus loin. Si on le considère comme nous voulons correspondre à ce que vous voulez, ça ne va pas marcher. Il faut dire seulement que c'est les gens qui veulent ça. Salah Tamanika, je vous réponds, Cheryl. Ce serait un lien dans certains de ces pays. Les opérateurs de CCTLD sont des fois les mieux informés en termes de problèmes, de ressources techniques et de manque de ressources. Dans ma région, nous avons une expérience pour laquelle nous avons utilisé les opérateurs de CCTLD pour faire des formations de compétences en ligne et d'utiliser le Skype, par exemple. Et dans certains pays, cette expérience a eu un très bon résultat. Donc, ce sont des exemples de la façon dont les indicateurs peuvent être utiles et peuvent être utilisés. Merci. Nous avons une queue. Maintenant, nous avons Holly Reich qui demande la parole. Merci. Je crois que Cheryl a éclairci cela, mais Sarah, je voulais vous demander, et parce que vous avez dit que vous utilisiez ces opérateurs en tant que facilitateur pour la formation. Je pense que la question était, est-ce que c'était des ALS ou est-ce que c'était des groupes qui facilitaient la formation des communautés locales? Ce sont des choses différentes. Vous avez raison, Holly Salanieta. Ce sont deux choses différentes. Lorsque je fais mes observations et mes commentaires, ils étaient basés sur les documents compilés par le groupe de travail. Ces documents concernent les ALS dans les at-larges et les exemples donnés sont séparés de l'expérience. J'espère que ça va éclaircir, répondre à votre question en tout cas. Merci beaucoup, Salah. Nous avons Victor N. Donang. Et ensuite, Oli. Merci, Olivier Victor Donin. Donc, chapitre d'Isoc du Cameroun.
We have interpretation here.
Nous avons l'interprétation, donc vous pouvez parler en français, si vous voulez, en espagnol ou en chinois même, si vous voulez.
Ok, j'allais dire à Salah que je ne suis pas totalement satisfait de la réponse parce que j'imagine mal un opérateur de CCTLD être aussi une structure à l'âge de l'ICANN. Et j'en ai fait le commentaire par rapport à la gestion des CCTLD à 10. Et j'avais posé la question clairement au CEO de l'ICANN et il y avait aussi quelques membres du board pour dire il y a un request for comment qui détaille clairement comment est-ce que le CCTLD doit être normalement géré. Mais dans beaucoup de pays, ce n'est pas géré en respect de cette RFC-là. Donc, qui indique que le CCTLD doit être géré pour l'intérêt de la communauté Internet locale. C'est vrai que c'est difficile de définir c'est quoi la communauté Internet locale, mais chez nous, par exemple, le CCTLD est géré à presque 100% par une structure gouvernementale. Et nous, chapitre de l'Internet Society et représentant un bon nombre d'utilisateurs, ne sommes pas satisfaits de cette gestion-là. Nous avons écrit à notre ministre et ma question était si la communauté Internet locale n'est pas satisfaite de la gestion de la CCTLD, elle peut faire recours à l'ICANN? La réponse à Addis était non, l'ICANN ne peut pas s'ingérer dans la gestion du CCTLD. Et j'ai répliqué en disant on parle de délégation. L'ICANN a délégué une ressource à une entité pour qu'elle soit gérée selon certains critères. Si elle n'est pas gérée selon ces critères, est-ce que l'ICANN peut intervenir? On m'a dit non. Mais si le CCD est structure at large, est-ce que cela peut être possible? Donc, j'imagine vraiment très compliqué de retrouver un CCTLD dans le groupe des structures at large. Donc, c'est ça, cette clarification que je vais obtenir. Merci.
Cheryl, pour le procès-verbal, Salah, je m'excuse d'interrompre, mais je sais ce que je veux dire. Victor, on te remercie de ta question. On voudrait en fait t'offrir de suivre cette discussion hors cette question parce que c'est une question beaucoup plus détaillée et approfondie qu'on devrait avoir et que je suis prête à avoir avec toi. Et je pense qu'il y a d'autres membres de l'équipe régionale de dirigeants et d'ALAC qui voudraient faire partie de cette discussion. Mais je voudrais que ce soit clair qu'on appartient à l'organisation de support de code pays. Et c'est ce qu'on appelle un cadre d'interprétation qu'on fait comme activité et qu'on a fait pendant quelques années déjà. Et il s'agit de délégation et redélégation. Et donc, il s'agit de regarder chaque mot et le lire au mot par mot pour pouvoir interpréter ces documents. Donc, ce travail n'est pas fini. Mais on t'a pas dit toute la vérité au point où tu corriges ce qu'ils disent. ICANN, en fait, est une fonction, ne peut pas intervenir parce qu'il s'agit d'une fonction de YANA, en fait. Mais il y a aussi des petites nuances dans la langue. Il faut que ce soit clair ici. Il y a des critères stricts qui n'ont pas été modifiés et que je suis sûre ne vont pas être modifiés dans le cadre du programme d'interprétation qu'on est en train de développer. On voudrait savoir quel est l'indice de ce niveau de satisfaction. Et cette définition est dans un document et je vais te le montrer tout à l'heure. Mais on a reçu l'errance de la distribution dès le début jusqu'à aujourd'hui. Donc on a un groupe de travail d'interprétation. Il faut que tu le trouves dans ton agenda. On te recevra. Tu es bienvenue à nous rejoindre. Donc, cette discussion ne devrait pas être maintenue ici, mais en fait, il faut qu'on en discute. Merci. Olivier Crépin-Leblond, merci Cheryl. Je pense que ça ne porte pas vraiment sur le renforcement de compétences, mais vous pouvez continuer cette discussion tout à l'heure. Et c'est une bonne question à avoir posée. On t'a donné une réponse ici. On finira la queue avec Tijani Benjelema et on continuera. Donc, Tijani, vous avez la parole.
Et merci, Victor, de m'avoir rappelé que je n'ai pas parlé le français depuis samedi, depuis dimanche, excuse-moi. C'est vrai que, Olivier, que ce n'est pas tout à fait du capacity building, mais je pense que cette question d'ALS qui est en même temps un groupe d'intérêt, ou, c'est une question qu'il faut vraiment résoudre définitivement. Le flou n'est pas bon dans ce cas-là. Nous avons, chaque groupe d'intérêt a une place à ICANN. Et les utilisateurs, normalement, c'est ceux qui n'ont pas d'intérêt. Et je pense que, Olivier, il faudrait qu'on fasse un travail spécifique pour définir ce que c'est qu'une ALS. Qui pourrait être une ALS, sans ambiguïté.
Merci, Tijani. C'est Olivier Crépin-Leblond qui reprend la parole. Je ne voudrais pas continuer avec ce débat. Je pense que cette communauté soutient vraiment les liens avec les opérateurs CCTL locaux, avec les RIR locaux, entre RALO et RIR. Et il y a plein d'occasions de collaboration. Mais on sait qu'il s'agit d'un monde du bas. Berlo, il y a plein d'organisations différentes et on ne peut pas s'imposer. C'est juste une offre ou une invitation. Salah, est-ce que tu as d'autres remarques finales? Salah qui prend la parole, juste une remarque finale par rapport à ce que Victor et Tijani ont mentionné. Il me semble que c'est très important de comprendre et de reconnaître que en ce qui concerne le groupe de travail de renforcement de compétences, on doit simplement s'occuper du renforcement de compétences. Et les politiques et ce genre d'aspects tels que la redélégation sont d'autres problématiques que vous pourriez peut-être discuter dans d'autres groupes ou alors à travers la liste de diffusion. Mais ce que je voudrais dire est que cette fiche et ces informations qu'on a rassemblés et la raison pour laquelle on les a créés identifie, et c'est pour identifier que dans le pays où une ALS se trouve, quelle serait donc la bonne façon d'intensifier la formation et le renforcement de compétences. Ça devrait être fait à l'échelle nationale, régionale ou dans le contexte d'ICANN. J'espère avoir précisé cette question. Et si vous avez d'autres questions qui portent sur le renforcement de compétences, vous pouvez toujours m'envoyer un email. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Le comité de pilotage formé par Deb, Tijani et Carlos, qui n'est pas ici, mais qui a envoyé ses excuses, bien sûr, après, à vous répondre, bien sûr. Olivier Crépin-Leblanc, merci, Salah. Et avant de conclure avec cette partie qui a commencé avec le groupe de travail de l'Académie ICANN, on a des questions à distance, l'une de Alejandro Pisanti. Donc, on va demander ici à ce que Mme Ashtiani lise la première question de Alejandro Pisanti. Bonjour, c'est Mme Ashtiani. Pour le procès-verbal, on a une question pour Victor de Alejandro Pisanti. En fait, c'est un commentaire. Commentaire général. Il dit « Je félicite cet effort dans sa direction. Ça correspond à ce que j'ai demandé lors d'une réunion avec le conseil de direction, de contribuer et non pas simplement de demander. » Olivier Crépin-Leblanc dit « Oui, et en fait, l'initiative de l'Académie ICANN porté sur ce même point. Il dit qu'il félicite le travail de l'Académie ICANN. Il m'a aussi envoyé un message privé. Il a dit que lui-même, n'y croyait pas au début parce qu'il croyait que ce serait un projet d'at-large. Mais il a vu comment ce projet a grandi et comment Sandra, tu l'as fait grandir et donc qu'il vous soutient énormément. Donc, c'est très bien. Pour ceux qui ne le savent pas, Alejandro est au Mexique en ce moment, à la ville de Mexique. Donc, dans l'autre bout du monde en ce moment. Et puis, pour la question qu'il posait à Victor par rapport à la discussion qu'on vient de maintenir, oui, c'est Mme Ashtiani. On a une question d'Alejandro pour Victor. Il faut lire de près le document RFC 1591 et les versions postérieures pour vous illuminer un peu. Oui, dit Olivier. Donc, ce document sera ce que vous devrez lire ce soir. Donc, par rapport à ce que Salah a dit, Mme Ashtiani dit, Alejandro dit, je ne suis pas d'accord avec Salah. Bien que le groupe ne devrait pas intervenir, les processus et les structures basiques et leur compréhension sont une compétence essentielle qu'on devrait renforcer. Salah dit, oui, en fait, si vous voyez ce document qui a été publié sur le wiki, on montre non seulement pour les ALS et les types d'ALS qui existent, les pays, les territoires, s'ils ont ou pas des opérateurs de CCTLD, s'ils ont été délégués, s'ils ont des bureaux d'enregistrement, quel est le modèle de gouvernant, etc. Donc, Alejandro, pour vous répondre, je pense que cette fiche, en fait, répond à ce que vous manifestez. Si vous avez d'autres recommandations pour que le groupe de travail recommande ou reconsidère ce qu'on a mis dans la fiche, envoyez-nous un email. Et par rapport au contexte des discussions, pour ce qui est le but du groupe de travail et la mission, on se centre sur le renforcement de compétences pour les ALS. Donc, on ne s'occupe pas du genre d'ALS et du modèle de gouvernance. On cherche à intégrer tout simplement la participation et l'intégrer à l'expérience ICANN pour qu'elle soit soutenable, qu'elle soit valide et qu'elle soit durable. Merci. Merci, Salah. Dit Olivier Crépin-Leblanc. On va continuer avec notre ordre du jour. Et la partie suivante porte sur le groupe de travail d'ALAC sur les IDN. C'est le nom de domaine internationalisé. Et donc, on aura une mise à jour de Rinaleh Abdul-Rahim. Merci, Olivier. Je suis Rinaleh Abdul-Rahim pour le procès-verbal. Edmond Chong et moi avons accordé que ce serait moi qui ferais cette mise à jour à ALAC aujourd'hui parce qu'il se centrerait sur la réunion du groupe de travail d'IDN de demain. Donc, les politiques d'ALAC se sont centrées sur trois aspects donc, dans notre groupe de travail. Donc, pour le programme des variantes IDN, spécifiquement ce qu'on a discuté hier lors du panel d'Aperalo et donc les procédures pour développer et maintenir les règles de la zone racine et les étiquettes IDN. On a produit deux déclarations là-dessus, l'une particulièrement pour l'équipe VIP des IDN. Et pour le processus de commentaires publics officiels. Puis on a répondu à la déclaration qu'il fallait examiner les variantes IDN télé des expériences des utilisateurs, donc l'expérience des utilisateurs là-dessus, et puis qu'il fallait revoir la politique générale de la délégation de chaîne CCTLD. On a tous les deux participé à cette réunion. Et on aura des observateurs d'at-large et de la GNSO. Et on a collaboré avec ces liaisons qu'on a eues. Et c'est ainsi qu'on a organisé le panel d'hier. Parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait des problèmes qui devaient être manifestés à at-large. Et on s'est servi de la discussion pour voir quelles étaient les complexités, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que la communauté sache sur ces complexités, pour que les membres de la communauté décident comment ils veulent agir ou opiner par rapport à ces questions. Dans cette réunion en particulier de hier, c'était une table ronde avec la communauté et les multiples parties prenantes. On a parlé des langues asiatiques, des variantes IDN et l'acceptation universelle et de l'Asie. On a vu qu'on avait de bons résultats de la communauté et des gens de l'Asie Pacifique. Et je pense que tout le monde veut travailler avec nous pour continuer d'avancer avec cette question. On a eu hier aussi une session de l'acceptation donc universelle des IDN qui était faite par le groupe de mise en œuvre entre la CCNSO et la GNSO. Et on aura un programme, une session d'information de 13h30 à 15h. Si vous voulez savoir ce que l'on fait à ICANN, venez nous voir. On a aussi la réunion du groupe de travail IDN d'at-large et on va se centrer sur trois aspects. Donc, le processus de génération de la racine pour les candidatures IDN, les implications telles des variantes telles des actives et les stratégies IDN à long terme. Je pense que Edmond y pense et on faudra le faire pour demain pour avoir une idée de ce que l'on pourrait faire demain, si possible, et la réunion avec le conseil de direction que j'ai mentionné hier, puisqu'ils vont décider quelle sera la procédure et les recommandations de l'étude d'expérience des utilisateurs par rapport aux variantes telles des IDN de la racine. Pour ce qui est de la focalisation dans l'avenir, dans les variantes telles IDN, le point 2.2 est la mise en œuvre de la racine LGR-IDN et les processus. Puis le 7 sont les mises à jour des nouveaux programmes, des programmes de nouveaux GTLD et CCTLD d'ICANN. On va devoir le voir avec la candidature et la suite de ces nouvelles mises en œuvre d'ICANN. Et puis on a le projet numéro 8 aussi. Les données d'enregistrement internationalisées vont devoir avoir des contributions spécifiques, particulièrement pour les RAA. Et ma recommandation pour les présidents des groupes de travail d'at-large est de nous fournir leurs résultats pour qu'on puisse aborder les problèmes qu'on devrait aborder. Et c'est tout. Merci. Olivier, oui, merci. Rinalia, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Jean-Jacques Suprena qui prend la parole, merci. J'ai fait une remarque hier que je voudrais répéter parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'étaient pas ici hier. Et je voudrais souligner encore une fois l'importance politique du travail que ce groupe fait. Parce que c'est le type de discussion qui a un élément très délicat qu'est les langues. Je pense que c'était Ram Mohan qui a mentionné cela et c'est la raison pour laquelle les gens ont battu des guerres. Et il y a une discussion ouverte en ce moment entre les gens qui croient que la langue les appartient il devrait y avoir davantage de discussions de ce genre, d'ailleurs. On ne l'a pas discuté dans ces termes. Mais le fait que le Taïwanais, les Chinois, les Coréens puissent décrire et discuter leurs écritures et travailler ensemble pour trouver des solutions acceptées et déployées par tous n'est pas fréquent et je voudrais le féliciter. Donc mon deuxième point là-dessus est que si ce n'est pas une réussite, on pourrait dire quand même que c'est une dimension d'ICANN qui devrait être maintenue. Et je demanderai au président Dalak de passer ce message aux dirigeants d'ICANN, au conseil de direction et au PDG pour qu'ils sachent qu'il s'agit d'un des éléments qui semble être abstract et lointain, mais qui a un impact sur la réputation d'ICANN aussi. Merci Jean-Jacques, dit Olivier Crépin-Leblanc. On a maintenant quelqu'un qui devrait en fait avoir son propre micro portable. On ne sait pas pourquoi elle doit se rapprocher de la table, mais en tout cas, on a Sherry Langdonor. Merci, je suis Sherry Langdonor. Oui, ça me fait faire du gym, de la gym. Et je voudrais reprendre ce que Jean-Jacques a dit à Rinalia et m'assurer que le président transmette formellement à travers la chaîne de communication non seulement le succès de cette table ronde, mais aussi certaines des données que vous avez reçues comme contribution dans votre groupe de travail, parce qu'on a parlé de la qualité du travail. Et je voulais particulièrement revenir à votre diapo précédente. Voilà. Et on parle là des IDN dans la deuxième section. Ce travail est très valable. Et vous mentionnez l'ESA, qu'on a parlé avec eux sur la précision. Et ce serait peut-être approprié pour nous, je ne sais pas si pour votre groupe de travail. Moi, j'ai été inactive de ces derniers temps, mais ça aurait été bien de venir voir Julie, la liaison pour ESAC. Et il y a eu de nouveaux efforts, ils ont eu de nouveaux résultats. Mais ce serait bien d'avoir cette session d'information et ce pourrait être même utile de le faire une réunion ouverte pour que toutes les structures à large et toutes les communautés linguistiques puissent les rejoindre. Mais je veux qu'on s'assure de ne pas suivre et continuer de travailler sans reconnaître et sans féliciter le travail qui a été fait. Je m'excuse avec les interprètes, je sais que je parle vite. Merci Cheryl, dit Olivier Crépin-Leblanc. Ça pourrait être une action à suivre pour le groupe de travail sur les IDN. Rinalia, qu'est-ce que tu en penses? Oui, merci Cheryl, dit Rinalia Abdelrahim. On va noter en tant qu'action à suivre et je prendrai le commentaire de Jean-Jacques aussi comme action à suivre pour le mentionner au président Dalak. Je le ferai savoir à Heidi tout à l'heure. Merci, dit Olivier Crépin-Leblanc. La table ronde qu'on a organisée hier était certainement impressionnante parce qu'on a vu l'organisation de ce groupe de travail. On a vu beaucoup de gens dans la salle et c'était étonnant vraiment. Ce n'est pas fréquent. Hein. Et je voulais simplement faire un commentaire sur ce que tu as dit, Rinalia. C'est quelque chose qu'on m'a critiqué dans le passé. C'est juste un exemple. On a une page ici, c'est la centralisation ou la focalisation du futur FY14 IDN TLDRA IDN RIR CCTLD. Je pensais que tu n'aimais pas les acronymes. Monsieur le Président, dit Rinalia Abdelrahim, si vous êtes à la table, on espère que vous saurez déjà ce que ces acronymes veulent dire, mais vous avez aussi des brochures qui l'expliquent. Si vous ne les avez pas vues, c'est un énorme problème. Merci Rinalia, dit Olivier Crépin-Leblanc. C'est ce que je vous répondrai lorsque vous me critiquerez. Ivan Leibovitch, Bonjour, c'est Evan qui parle. Et ce n'est pas utile non plus d'avoir deux initiatives différentes au sein d'Adlarge qui se servent de l'acronyme RRR. Bien, Olivier Crébin-Leblanc qui reprend. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport au groupe de travail et au travail du groupe de travail des IDN? Izumi qui dit je voulais abréger mon nom si possible. Bien, je vais parler. Non, je voulais faire un commentaire sur les abréviations. Bien que j'apprécie votre travail des sessions pour les nouveaux arrivants, etc., je voudrais savoir. Je pense qu'au début des sessions, telles que ces réunions ouvertes, vous pouvez expliquer complètement ou confirmer. Je sais le concept que je veux dire, mais je me souviens plus ce que je voulais dire. Pour que tous ceux qui viennent pour la première fois ne soient pas aussi intimidés. Si on vous dit, bien, lisez les brochures, étudiez. C'est impossible de le faire en 45 minutes. Donc, il y a des groupes qui ont cette règle lors des réunions. Et à chaque fois, lorsque l'on crée une abréviation, il faut qu'on l'explique, qu'on le clarifie et on pourra s'en servir par la suite. Merci. Merci, Izumi, dit Olivier Crépin-Leblanc. Donc, on passe directement au point suivant de notre ordre du jour. C'est une mise à jour du groupe de travail de WHOIS. Et les droits et les responsabilités des registrants, l'un des groupes RRR. Je vois que c'est Carlton Samuels qui va le prendre en charge et Holly Wright. Donc c'est conjoint, vous allez le faire ensemble. Bien, vous avez la parole. Ce serait bien si vous allumiez votre micro, Holly. Holly Reich qui prend la parole. On va se servir de nouvelles terminologies. Pour ceux qui n'habitent pas dans ce monde, on va parler des RAA. C'est l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement. Un accord entre ICANN et tous les bureaux d'enregistrement, justement. On va parler de WHOIS aussi. Et WHOIS est une référence à trois choses différentes. D'une part, les données que les accords d'accréditation des bureaux d'enregistrement disent doivent être soumises, et aussi aux services qui font que ces données soient disponibles, et aussi au protocole que le protocole du groupe de travail de l'ingénierie d'Internet, dont le IETF, a mis à la disponibilité des personnes. Carlton et moi avons travaillé ensemble et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un seul problème qu'on partageait dans les deux groupes. Parce que dans l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement, en fait, si bien qu'il y avait des historiels différents pour les deux problèmes sur lesquels on travaillait, c'était presque pareil. Donc Carlton et moi avons décidé de parler ensemble sur les deux problèmes. Est-ce qu'on aurait assez de temps? Merci. Bien, donc voilà un peu de l'historiel de ce qu'Izumi a demandé. Voilà pourquoi on va parler ensemble. Et la précision WHOIS, qui est la précision des données sur les registrants et d'autres informations aussi, ont fait partie de notre ordre du jour depuis 2001. Et lorsqu'on parle de DNSO, c'était l'organisation de support des noms de domaine qui s'est désintégrée pour passer à être une organisation de support des codes pays, la CSNSO et la GNSO. Donc la DNSO est précédente et préalable à ces deux organisations. Ça vous montre combien de temps est passé. C'est une partie de l'histoire qui est assez longue, mais en 2009, c'est l'époque où je me suis engagée. Et à l'époque, l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement qui n'avait pas été modifié par le PDG à ce point-là, c'était un Australien qui nous a dit qu'il fallait travailler davantage pour modifier ces accords. Donc certains parmi nous ont maintenu des téléconférences pendant des heures dans la matinée. Et en 2010, en octobre, on a fait des suggestions pour l'amélioration des RAA. Lorsque je dis amélioration, je veux dire que les agences de respect de la loi avaient fait des demandes par rapport à ce qu'ils voulaient, non seulement en termes d'informations, mais aussi sur le genre d'accord qu'ils voulaient mettre en œuvre. Le résultat du rapport final fut que l'on a commencé des négociations et presque à la même époque, l'accord basique qui maintient l'existence d'ACAN est un accord avec le gouvernement international et l'ITU ou l'UIT et une filiale du département de commerce des États-Unis. Et ce principe de réaffirmation de principe est un accord qui soutient l'existence d'ACAN. Et l'une des exigences claires de cette affirmation était l'exigence d'une révision de WIS dans le délai d'un an. Donc, certains parmi nous avons commencé à travailler dessus. Pendant ce temps, les négociations des RAA étaient en cours. Et en tant que part de ces négociations, on a discuté des données WIS. Et en mai 2012, on a fini le rapport final de l'équipe de révision des politiques WIS et on a parlé des exigences des RAA. Donc voilà où on en est en ce moment, c'est mars 2013. On a fait ces négociations sur les RAA. Ces négociations sont toujours en cours, mais on a publié certains documents, je ne sais plus très bien combien. Mais ces documents incluent une mise à jour des RAA et d'autres documents. Et certains parmi nous les avons tous lus, les centaines de pages, et fait plein de commentaires. Donc, on en est à mars 2013. Diapo suivante. Les documents résultants sur lesquels on a fait des commentaires. Je ne sais pas combien de personnes ont lu les pages wiki, mais on a fait des commentaires. On a lu les pages, pardon. Voilà les recommandations de l'équipe de révision, WIS. Et certaines de ces recommandations ont été mises en œuvre. Souvenez-vous qu'on nous avait demandé cela dans le cadre de la réaffirmation des engagements. Mais le fait de déterminer ce qu'est la politique WIS et sa mise en place devrait être une priorité stratégique. Et on a recommandé qu'il y ait un comité de haut niveau, qu'il y ait un document de politique WIS. Et en fait, on a besoin d'avoir la communauté, et c'est une communauté d'utilisateurs, non seulement de registrants, qui travaille sur la définition de WIS et la raison pour laquelle ce serait utile de l'avoir. Ils ont beaucoup à dire par rapport à la conformité, et la précision, la transparence de la conformité, ce qui est en train de se passer, la responsabilité, la rédition de comptes à la communauté ICANN pour la conformité que l'on voit et le manque de conformité aussi. Hein. Et puis des demandes pour les ressources disponibles pour le secteur de la conformité pour garantir qu'ils s'occupent de leur travail. L'équipe de révision a beaucoup à dire sur la précision des données. Et en fait, ils ont mentionné une étude faite aux États-Unis qui montrait que l'imprécision était équivalente à 8% et qu'en fait, dans cette étude, personne ne pensait à s'en servir de ces données pour voir s'il y avait une vraie personne individuelle qui avait enregistré ces données. Cette équipe de révision de Ruiz a trouvé cela comme situation grave, comme problème grave. On s'est dit que ces données devaient résoudre les données sur les registrants qui ont un nom de domaine. Donc, ce qu'on a vu, et vous voyez les chiffres sur l'écran. En fait, non, vous ne les voyez pas. Mais les résultats étaient que presque 25% des données Ruiz montraient qu'il n'y avait pas de vraie personne. Et donc, que c'était un vrai échec. Et qu'il y avait un grand pourcentage de données de bureau d'enregistrement qui n'étaient pas précis non plus. Il y avait assez de données pour contacter la personne, mais on s'est dit que ce niveau d'imprécision n'était pas acceptable et qu'il fallait travailler pour améliorer cette situation, qu'il fallait réduire ce pourcentage d'échecs, donc qu'il n'y ait pas de données qui n'aient pas de vraies personnes. On doit le réduire à la moitié dans 12 mois et l'autre moitié dans une autre année, et ce n'est toujours pas le cas, bien sûr. L'autre recommandation était sur la régulation et le contrôle des fournisseurs de services proxy et de confidentialité de vie privée. Je ne veux pas vraiment entrer dans le détail de cet aspect, simplement dire que le comité consultatif de stabilité et sécurité, donc le SAC, a fait un travail qui montrait que pour l'un des fournisseurs de services proxy qu'ils avaient étudié, qui avait été identifié par la Commission fédérale du commerce des États-Unis, 49% des registrants qui se servaient de ce service avaient déjà été identifiés en fait comme personnes qui faisaient la fraude et des abus. Donc les personnes qui se servaient de ces fournisseurs, en fait, le faisaient pour cacher leurs activités, leurs vraies données. Donc, diapo suivante, vous voyez que les recommandations continuent. Il doit y avoir un seul endroit pour que les consommateurs trouvent les données. Si vous voulez savoir qui une personne est, à qui les données appartiennent, il devrait y avoir un système amélioré pour qu'il y ait davantage de visibilité sur Internet. Il y a d'autres recommandations sur les données WIS et les IDN qu'on ne va pas mentionner. Il devrait y avoir un plan compréhensif pour la mise en œuvre des recommandations et un rapport du statut annuel. Diapo suivante. Bien, très intéressant. Je pense que c'était la diapo finale qu'on ne voit pas ici. C'était une liste des documents qui ont été divulgués à la fin de mars sur ce qu'on espère pouvoir commenter dans très peu de temps. Voilà. Et c'est ce qu'on a lu. On dirait qu'on est fou, en fait. C'est probablement vrai. Lorsque je dis qu'ils sont mis à jour, les RAA, il y a un document qui montre les modifications accordées, puis il y en a un autre document qui porte sur ce même document qui est censé parler des modifications s'il y a accord ou pas, et puis il y a un autre document qui montre rien d'autre, mais le texte, et c'est pareil. Donc parfois, on a trois versions d'un même document, trois versions des RAA mises à jour. Puis, vous avez la spécification des politiques de consensus, les spécifications de la politique de rétention de données. Et je vais parler, une fois que Carlton aura fait sa présentation, sur la précision WIS et ce qu'on veut dire par ce qu'il faut faire pour garantir que ces données soient précises et pourquoi c'est un problème aussi important. sur la spécification des services de confidentialité et proxy. C'est tout neuf. Puis on a des spécifications sur les opérations additionnelles des bureaux d'enregistrement. Puis on a un document qui s'appelle la spécification des droits et responsabilités des registrants. C'est un nouveau document qui est censé résumer les droits et les responsabilités des registrants qui sont inclus dans le document DRA. Puis on a un certificat de conformité, très ennuyant. Et puis un annexe de transition pour pouvoir voir comment on passe d'un point à l'autre, comme Alan a dit. Et c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on veut continuer de travailler dessus, Carlton?
Carlton Samuel. Bien, donc, je vais reprendre la question du problème des WHOIS, qui a été donc ajouté à cet accord d'accréditation du bureau d'enregistrement 28-13. La mesure, ce que l'on appelle RDDS, donc service de répertoire de données de registre. Les données, les services de données sont spécifiques. Ce sont des données spécifiques, des éléments de données spécifiques, donc qui sont enregistrés par le bureau d'enregistrement, qui doivent être stockés et fournis aux requêtes de WHOIS, selon donc le WHOIS 2843, sur ce qu'on appelle un site internet spécial. Il y a une série de choses qui ont été ajoutées à cette série de données. Il y a maintenant une demande pour avoir des informations concernant les revendeurs dans cette série de données, ainsi que le statut du nom de domaine. Ce sont deux choses très importantes, une série de données très importantes qui ont été ajoutées à cela. L'autre domaine qui est vraiment très important aussi, et cela a été mentionné plutôt par Holly, et c'est l'exactitude et la spécification concernant cette exactitude. Il faut analyser cela soigneusement parce que notre idée, c'est qu'il y a une série d'éléments de données, de cet ensemble de données, et pour lesquels il y a des requis, des prérequis d'exactitude qui sont très importants et qui doivent être plus précis, plus exigeants que pour d'autres. Et donc, je pense que c'est important pour nous de s'assurer que toutes les données, tous ces éléments qui nous permettent de contacter quelqu'un, et que ce soit le registrant, non, pour toutes ces données, le registrant doit être sûr d'un certain niveau d'exactitude et il nous faut aussi être sûr et nous assurer que l'exactitude est maintenue. Donc, il faut qu'il y ait un processus à travers lequel le bureau d'enregistrement va s'engager à garantir que ces données qui sont de première importance pour contacter un registrant, que ces données donc sont mises à jour et sont exactes. La spécification, ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est intéressant parce que cela a été extrait d'un accord plus large concernant les spécifications et c'est là que le détail se trouve. Donc, il faut regarder de près les spécifications parce que c'est ces spécifications qui vont déterminer les résultats, notamment lorsqu'il s'agit de WHOIS et que le WHOIS est remis en question. La question de la confidentialité et le problème de la confidentialité du proxy, c'est quelque chose de très important pour AtLarge aussi. La plupart d'entre vous savent probablement qu'il y a une contribution importante de notre communauté et dans la communauté à large aussi. On a un droit à la confidentialité et les données et aux données personnelles. Et pour qu'un registrant ait ce type de données personnelles et une certaine confidentialité et que ce ne soit pas violé. Donc, il y a des personnes qui pensent, par exemple, que les exigences pour les données WHOIS et contenant des éléments spécifiques de coordonnées personnelles et qui doivent être disponibles publiquement au niveau du public sont une violation des droits personnels et de la liberté personnelle et une violation des lois de différents pays dans lesquels le droit de la confidentialité, le droit de la, du respect de la vie privée est très strict. Donc, nous, on a pensé qu'on aurait pu, on aurait pensé en tout cas que comme telle que la situation est actuellement, il y a des services qui fournissent qui donnent aux registrants la capacité de cacher ces données concernant leurs coordonnées personnelles. En tout cas, de ne pas les cacher, mais de ne pas les donner, de ne pas les rendre publiques, de ne pas les diffuser. C'est donc de ne pas diffuser les données, les coordonnées personnelles des registrants. Donc, on appelle ça des fournisseurs de confidentialité. Donc, ils ne sont pas réglementés. Donc, c'est une tentative de mettre en place un cadre par lequel ces services pourraient être régularisés et appartenir à un cadre, justement dans le cadre de ce processus dans son ensemble pour l'enregistrement. Par conséquent, c'est très important pour nous de comprendre qu'est-ce que l'on veut faire. Est-ce que cela est destiné à définir pour la première fois un espace pour la confidentialité, pour les services de proxy concernant la confidentialité? Il y a des personnes qui donnent aux registrants la possibilité de dissimuler, de ne pas diffuser leurs coordonnées personnelles. Est-ce que cela pourrait être réglementé d'une certaine façon à travers des contrats? C'est important de le comprendre. Cela est important pour nous parce que la plupart d'entre vous se souviennent peut-être que c'était quelque chose qui avait commencé déjà avant le rapport final de l'équipe de révision d'ALAC pour la question de soutien de certains types de réglementations concernant les services de proxy pour la confidentialité, ou services par proxy concernant la confidentialité, qui était soutenu par le rapport concernant le WHOIS, le rapport final concernant le WHOIS. Donc, c'est un des premiers points auxquels nous sommes arrivés. C'est important d'en tenir compte. Et ensuite, il faut s'assurer que la façon dont nous essayons de le faire fonctionner est ce qui va finalement émerger de ces spécifications. Je vais vous expliquer. Il y a certaines personnes dans la communauté qui sont convaincues que les services d'enregistrement de proxy de confidentialité donnent lieu à l'anonymat. Qu'est-ce que je veux dire? Cela veut dire que l'on peut enregistrer un nom de domaine, mais le registrant doit normalement être enregistré, identifié. Ce n'est pas ce que nous voulons dire lorsqu'on nous parle de service de proxy, de confidentialité. Nous pensons qu'il doit y avoir un niveau d'interaction supérieur pour accéder aux données, aux coordonnées de du registrant. Voilà, c'est ce que nous voulions dire lorsque nous avons soutenu les services de proxy concernant la confidentialité. Ce n'est pas une question d'anonymat. Ça n'a jamais été le cas. Les gens ne peuvent pas et ouvrir un registre et ensuite être inaccessible. Notre objectif était, dans notre déclaration, nous voulions dire que les fournisseurs de proxy de confidentialité doivent accepter une certaine responsabilité pour l'enregistrement. C'est cela qu'on a dit. Donc, c'est un peu... C'est pas tout à fait pareil. Hein? Et que ce que j'entends dire au sein de la communauté concernant les références de l'enregistrement par proxy de confidentialité. C'est important de comprendre que nous nous faisons actuellement du souci de... concernant ces droits de confidentialité qui, à notre avis, devraient être abordés. Mais la méthode par laquelle nous voulons aborder ces droits de confidentialité ne s'applique pas à l'enregistrement anonymat. C'est très important. Et finalement, je dirais, et avant de passer aux questions, que l'accord d'accréditation du bureau d'enregistrement tel qu'il est aujourd'hui. Avant de dire cela, je dirais que le Conseil, en novembre 2012, a eu une résolution dans laquelle le Conseil s'engageait à mettre en œuvre et à appliquer la politique actuelle du WHOIS et que, en même temps, il allait organiser ou créer un groupe qui offrirait une évaluation générale de ce qu'on appelle la nouvelle génération de services WHOIS, et c'est ce qu'on appelle le groupe d'experts et WG, dont je vais être un membre. Et ce groupe analyse actuellement tout cela depuis le début. Et donc, si l'on lit la révision, le rapport final de la révision du WHOIS, on peut voir que ce qu'on fait, c'est rien d'autre que d'appliquer une des 16 recommandations qui figurent dans ce rapport. C'est rien de nouveau. C'est la mise en œuvre d'une des recommandations et que l'on connaît. Donc, il y a plusieurs recommandations, mais c'est ce que ce groupe de travail d'experts doit faire. Il s'agit d'avancer dans certaines de ces recommandations et de leur mise en œuvre. Donc, vous allez entendre beaucoup d'arguments qui tendent à parler de conspiration de ce groupe de OWG, mais assurez-vous que ces recommandations sont entièrement appliquées et sont entièrement entendues et connues. Donc, je voulais le dire, je voulais faire cette parenthèse. Bien, maintenant, il y a des travaux de négociation et il y a des négociations qui auront lieu demain. Nous serons là, Alain sera là, parce que Alain aura davantage de choses à nous dire de ce point de vue, du point de vue de la GNSO. Merci. Merci beaucoup. Nous avons déjà une queue de personnes qui veulent prendre la parole. Donc, je vais donner les deux co-présentatrices ont fini. Bon, donc, je donne la parole à Holly. Bien, Holly prend la parole. J'allais donner un petit peu plus de détails. Je suis heureuse d'entendre parler de ce proxy de confidentialité parce que c'est un des gros problèmes. Et nous devons vraiment travailler dans le domaine des spécifications de proxy de confidentialité parce que dans le contrat de RAA, il y a des dispositions concernant ces spécifications qui doivent être développées, mais ça n'a pas été fait encore. Donc, il y a une tâche qui est en suspens, qui va avancer, j'imagine. Mais la façon dont cela est dit actuellement implique une série de principes qui, selon lesquels on doit faire ceci mais pas cela, l'accès doit être fait de cette façon particulière et ça commence à déjà être un peu plus clair, mais c'est pas encore suffisant. Je pense qu'on peut pas encore dire que c'est clair. Je voulais maintenant ajouter une série de petites choses avant de conclure. Et comme Gardon l'a dit, les spécifications concernant l'exactitude sont très importantes parce que vraiment, littéralement, on peut dire que si c'est appliqué correctement, si si cela l'est, le problème d'exactitude sera réglé. Et c'est un problème très important. La première exigence, le premier prérequis, c'est que toutes les données coordonnées doivent être données, doivent être fournies. Ensuite, il doit y avoir une validation de l'adresse email, du téléphone, du numéro de téléphone et de l'adresse postale en accord avec certains standards, c'est-à-dire que l'email doit fonctionner, l'email doit bien marcher et le téléphone aussi doit marcher. Ça veut dire que quand on va vérifier, on va vraiment envoyer un message par SMS, par téléphone ou par mail et on doit recevoir une réponse ou on doit envoyer un email et on doit recevoir une réponse. Donc, il faut que ce soit fait comme ça, On ne peut pas dire Mickey Mouse en Californie, ça ne marche plus, ça c'est fini. Il faut davantage de précision. Donc c'est vraiment un grand pas en avant. Et si on arrive à le faire respecter. Donc c'est une réponse affirmative qui doit être reçue. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, le bureau d'enregistrement doit être suspendu. Donc il faut faire quelque chose. Voilà, c'est un petit peu ça. Si vous ne le faites pas, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on a une étape qui est la prochaine étape qui commence. L'autre chose qui est importante, c'est que s'il n'y a pas de modification dans les coordonnées, vous et le bureau d'enregistrement, vous devez vérifier à nouveau. Et s'il n'y a pas de réponse affirmative à nouveau, à ce moment-là, il faut suspendre ce site. Si le registrant fournit des données inexactes ou ne donne pas une réponse de mise à jour en disant au bureau d'enregistrement, on m'a dit que vous avez besoin de ces données-là. Si le bureau d'enregistrement donc, ne le fait pas et ne vérifie pas, à ce moment-là, il faut suspendre l'enregistrement. Et aucune de ces choses-là n'était là auparavant. Je pense que nous sommes en train d'arriver à notre objectif, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut rappeler à tout le monde que ces documents sont encore en cours de négociation, mais qu'il faut qu'on ait un document qui dise on va faire quelque chose pour résoudre ces problèmes. C'est important. Merci beaucoup, Holly. J'ai gardé une quarantaine de minutes pour la discussion dans ce groupe. Je crois qu'on a fait vraiment une bonne remise à jour. Je suis un peu inquiet parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Et il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole. Donc, une chose d'abord. En ce qui concerne le nombre de documents qui sont là, j'ai dit au CEO de notre organisation que le processus de commentaires publics est difficile à suivre. Il y a 500 pages à lire. C'est beaucoup trop. Et on ne peut pas y répondre en si peu de jours. Je sais que Alan les a lus, mais bon, il faut. Je vous donne la parole. Salah Nieta. Et d'abord, vous prenez la parole. Salah Nieta, vous avez la parole. Salah Tamanikamolo. Une des choses que je voudrais dire ici, c'est que la communauté at large est au courant des plaintes d'ICANN et que ces plaintes d'ICANN n'ont pas été entendues et qu'il y a des choses qui ne sont pas réglementées. La communauté est structurée de telle façon que tout ce qui concerne le WHOIS dépend du registrant. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont auto-régulées. Et le troisième point que je voudrais aborder, c'est que au niveau global, je dirais que WHOIS est considéré comme étant une partie de la stratégie de sécurité et que nous parlons ici de politique et pas seulement en termes de cyberdélit, mais aussi en termes d'impôts. L'OECD est au courant, elle essaye de mettre l'accent sur les problèmes de WHOIS. Et maintenant que j'ai dit cela, je voudrais faire un commentaire. Étant donné que le WHOIS, dans le contexte d'ICANN, est auto-réglementé, on a besoin de contrat et qu'on a besoin de contrat. Et il est déconcertant de voir que la fin du groupe qui ne corresponde pas au programme, hein, c'est écrit quelque part. Je sais que cela a été mentionné hier, mais je voudrais vraiment que vous recommandez à tous les membres d'ALAC de regarder le papier de Gab Bruen, le dernier qui a été diffusé, qui est très intéressant. Je l'ai lu hier. Et la fin du programme de rapport d'inexactitude globale et avec les points clés est très, très intéressant, surtout dans le contexte dans lequel nous travaillons au sein d'ICANN. Autre chose, le rejet d'une série de documents concernant la diffusion de certaines données. Je pense que vous pouvez le lire, c'est intéressant. Et très brièvement, ce que je voudrais maintenant ajouter, c'est que le fait que l'on ait entendu hier lors de la table ronde de multiparties prenantes, n'importe qui peut s'enregistrer et dire voilà mon adresse, je m'appelle un tel même si ce n'est pas vrai, et ce genre de choses, donc de mensonges. Hein. Si dans le contexte de le système d'autorégulation d'ICANN, nous ne voulons pas que cela soit réglementé par les gouvernements, hein. Nous ne voulons pas que ça dépende de la sécurité et de cyberdélits des pays et qu'il y ait des lois qui se fassent concernant les problèmes de Huawei dans le processus de politique. C'est très important que ICANN crée des standards élevés. Et donc, je propose que ALAC nous propose de créer, d'élaborer une déclaration à la communauté d'ICANN à ce propos. Et maintenant, je donne la parole à Olivier. Merci beaucoup, Salah Garth Bruen. Merci. J'allais d'abord remercier l'équipe de révision de WHOIS et le groupe de travail de WHOIS, Salah, etc. pour votre soutien et votre travail. Bravo. Ensuite, le travail réalisé par les différentes parties et concernées pour examiner les droits et les responsabilités des registrants, c'est vraiment un travail remarquable. Et ce que nous voyons à partir de là, c'est que le fait que les registrants n'ont pas d'obligation et que nous savons quelles sont ces obligations et nous recommandons au groupe d'amener cela à un autre niveau. Le document que Salah a mentionné démontre clairement que les bureaux d'enregistrement et ICANN, dans certains cas, n'appliquent pas vraiment les obligations et ces obligations, donc, ne sont pas respectées par les registrants. Et donc, tout ce processus en lui-même est défaillant du début à la fin. Et donc, je pense que si nous voulons, si les efforts de notre groupe visent à finir ou à définir les obligations du registrant et ce qui est requis dans le cadre du WHOIS comme obligation, nous devons avancer et analyser ce que les bureaux d'enregistrement font et ce qu'ICANN fait pour s'assurer que tout ça fonctionne déjà. Merci beaucoup, Garth, Holly. Bien, je voudrais séparer ici deux choses. La première, je suis au courant sur la question des conformités, il y a des choses qui ont été faites. Il faut continuer à travailler dans ce domaine. Nous en sommes conscients. Mais c'est à propos des nouveaux documents. Et au lieu de parler, je voudrais séparer un petit peu ce qu'on fait concernant la conformité, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et ce que l'on veut faire dans un nouveau cadre. Et moi, je m'inquiète, hein, parce que ici, ce qui a l'air, il semble qu'on va avoir un régime beaucoup plus solide que celui qui était actuellement en place jusqu'à maintenant. Hein. Donc, je voudrais vous demander de soutenir les spécifications d'exactitude, de soutenir les changements dans le RAA, de soutenir la direction qui a été prise jusqu'à maintenant et dire que cela va répondre aux soucis, résoudre les préoccupations que nous avons eues dans ces domaines-là. Et donc, s'il vous plaît, il faut séparer les différents problèmes ici et ne pas tout mélanger. Merci beaucoup, Holly. Nous sommes en retard. Nous avons encore beaucoup de personnes qui veulent prendre la parole. Donc, les personnes qui doivent prendre la parole dans la dernière partie de notre réunion et sont là. Je vais leur demander de prendre 10 minutes de plus. Mais il nous faut continuer à avancer, s'il vous plaît. Alors, Wolf Ludwig, vous avez la parole. Bien, Wolf Ludwig. J'ai remarqué qu'il y avait un nombre de remarques et de commentaires sur ma liste et je vais réduire cela à un seul commentaire vu les problèmes de temps que nous avons. Et ce serait que personnellement, je regrette que le RALO, pour un problème de compétence, n'était pas dans la position de pouvoir jouer un rôle plus actif, n'était pas capable de jouer un rôle plus actif dans les groupes de travail respectifs. Et vous savez que la confidentialité, les données de confidentialité ne sont pas vraiment les problèmes clés de préoccupation en Europe. J'ai suivi cette discussion de près. Ce ne sont pas des problèmes clés en Europe. J'ai une petite idée de la ligne de votre discussion, mais j'ai eu un problème de temps et donc je n'ai pas pu participer activement et faire des commentaires personnels dans ce domaine. Avant de faire un commentaire personnel, je voudrais savoir m'assurer qu'on exprime les préoccupations de ma région et je voudrais les connaître d'abord, ces préoccupations. Donc, je regrette que nous ayons pas contribué à ce débat. Je le regrette. Mais ça ne veut pas dire que nous ne nous intéressions pas à cette discussion. Au contraire, mais il y a un commentaire que je voudrais ajouter et pour conclure, on constate avec de plus en plus de préoccupations que tout le débat actuellement en Europe est réutilisé par les services d'application de la loi. Et il y a de plus en plus de personnes de la police européenne, du secteur de la sécurité qui essayent de faire pression sur les membres du GAC pour les influencer et pour avoir une influence sur la prise de décision de dernière minute pour ajouter un peu plus de consistance au texte et dans le but de pouvoir ensuite appliquer certaines lois. Et peut-être, dans certains cas, violer les principes de protection de données personnelles qui existent en Europe. Donc, on peut présenter cela. Je pense qu'il faudrait, en tout cas, le dire ici. Je pense que c'est important de le dire. Merci beaucoup, Wolf. Maintenant, je vais demander des commentaires et des questions. Et s'il n'y en a pas, je vais demander à Carlton et à Oli de continuer par mail. Alain Greenberg, vous avez la parole. Merci. Petit commentaire. Je ne suis pas d'accord avec certains de mes collègues, je dirais, et y compris Olivier. Je suis parmi ceux qui se plaignent en permanence du nombre de documents diffusés avant les réunions d'ICANN, mais ce n'est pas un des problèmes que nous avons ici. Pour utiliser un terme de base de données, les équipes ont choisi de nous donner entre 3 et 4 visions des RAA pour nous montrer de façon différente et assez simple ce qui a changé depuis la dernière version. Donc, une série de documents, ce sont des documents d'une trentaine de pages, mais chaque document nous montre quels sont les points de contentieux, de dispute. Donc, c'est très utile, ça permet de les lire facilement, de savoir ce qui est important, les changements qui ont été faits. Donc, oui, ce sont des documents assez lourds, assez long, mais c'est vraiment très important de les lire. Donc, bravo. C'est bien. Il nous donne une idée vraiment intéressante, une bonne idée pour pouvoir analyser ces documents, quelque chose que nous n'avions pas auparavant. Je suis d'accord avec Alain. Il y a une grande différence sur la façon dont vous nous avez fourni les documents. Est-ce que je peux continuer? Oui, bien sûr. ce qui n'a pas été dit dans cette discussion, c'est que les nouvelles propositions de RAA sont beaucoup plus importantes que les documents préalables dans beaucoup de domaines parce que ça permet de faire des révisions futures des RAA. Jusqu'à maintenant, c'était une jungle de données légales avec des opinions différentes. Il y a tellement de choses qui ont changé. Je pense que c'est tout à fait positif. Donc, il faut le dire. Les changements sont positifs et au niveau des bureaux d'enregistrement et d'ICANN, je dois dire qu'il faut vraiment les féliciter. Il y a beaucoup de travail qui a été fait et on demande aux bureaux d'enregistrement de prendre leurs responsabilités. Donc vraiment, il y a des différences qui ont été faites par rapport à ce qu'on avait auparavant. Et surtout, je dirais que c'est une bouffée d'air pur, c'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de choses qui manquent, mais c'est tellement mieux que ce qu'on avait auparavant. Et beaucoup de motions étaient très importantes pour nous et elles figurent dans ces textes. Merci Alan et ensuite Nirma Lagavol. Merci. Je viens des Indes. Je voudrais faire un commentaire sur la présentation de Carlton. D'abord, je voudrais le remercier pour avoir dit que la question de la confidentialité ne signifie pas l'anonymat, mais on doit aussi, il y a certaines réglementations qui défendent l'anonymat. Donc, je pense qu'il faut comprendre ce que signifie la confidentialité. Et les enregistrements de domaine constituent une certaine confidentialité pour certaines données. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, des pages jaunes, des pages des bottins de téléphone qui existaient auparavant. Une fois qu'on a dit cela, maintenant, ayant dit cela, je pense que le concept de service de proxy de confidentialité a été mal utilisé par les délinquants en général. Et je dirais que la meilleure façon de résoudre ce problème, le problème de la confidentialité n'est pas le même dans toutes les juridictions. Et donc, la meilleure façon de traiter cela serait de faire des politiques pour que ces politiques soient mondiales et qu'elles dépendent des politiques locales et qu'elles tiennent compte des politiques locales. S'il vous plaît, ralentissez un petit peu. De façon à ce que les bureaux d'enregistrement et les registres ne puissent pas prendre de position concernant les juridictions locales et en même temps les droits de confidentialité et ces droits de confidentialité doivent être respectés. Merci, Nural. Vos commentaires seront notés, parlez-en avec Carlton et on peut ensuite envoyer ses commentaires sur la liste de diffusion pour que tout le monde soit au courant. Bien, maintenant, nous avons les membres de la présidente du NOMCOM et nous avons aussi le président du NOMCOM élu et donc Ilum Ransi Poro, Jean Langdeno, qui sont là depuis un moment. Et nous avons aussi le président associé, Adam Pick, qui sont des deux côtés ici, à mes côtés. Euro, vous avez la parole.
Merci. C'est Uriel Lancipro qui prend la parole. Ça fait du bien de venir ici en tant qu'invité. Olivier dit on est en retard. Maintenant, vous connaissez ce que c'est d'attendre jusqu'à ce qu'on vous reçoive. On s'excuse, Uriot qui dit non, j'espère de ne pas prendre trop de temps de votre pause pour le déjeuner, qui est déjà assez courte. Mais donc pour le NOMCOM 2013, on a trois méthodes à vous présenter. D'une part, on a besoin de bons candidats. Bon candidat pour le directoire, pour le conseil de direction, donc pour ALAC, pour la GNSO, la CCNSO. Et on en a besoin maintenant, parce qu'on a une date butoir qui est le 1er mai. Donc, présentez vos candidats et suggérez aux personnes que vous croirez, que vous trouvez être bons candidats, de se présenter. Jusqu'à présent, on n'a plus rien faire, on ne peut pas inventer des candidats. Mais la deuxième, donc, le deuxième message est de vous demander de nous aider à savoir ce que vous pensez par rapport au genre de personnes que vous voudriez avoir, quelles sont les compétences, les capacités des personnes que vous voudriez avoir, non seulement pour ALAC, mais aussi pour le conseil de direction et même pour les ESSO. Sur l'écran, en ce moment, vous voyez le SOI, donc c'est la déclaration d'intérêt. Vous avez un lien là pour que vous remplissiez le formulaire. Ce n'est pas une réunion de cardinaux qui doivent choisir un pape et puis le pape va assumer comme personne illuminée. En fait, ce qu'on veut faire est de convaincre les gens que ce n'est pas un espace noir. Donc, notre réunion de départ à Toronto a porté le message de respect de la confidentialité des noms des candidats. Sans cette confidentialité, on n'aurait pas de candidat. Mais on a besoin d'avoir la confidentialité des noms et cependant d'être public. Ce n'est pas une question de faire des processus privés et secrets. Donc le processus est aussi ouvert que possible et les données sont secrètes. On l'a déployé de deux façons jusqu'à présent. Comme vous aurez vu, on a commencé à publier des appels au rapport immédiatement après, à la fin de chaque réunion. C'était une idée de Stéphane Van Gelder, qui est ici, et il a soumis la première version préliminaire de ce document et la réunion finale devra inclure l'accord de tous les membres du NOMCOM, n'importe de quel regroupement ils viennent, et des personnes qui sont ici à large aussi, bien sûr. Et puis, on a certaines réunions ouvertes ici à Pékin. Je pense que c'est la première fois que ça se fait. On a maintenu une réunion ouverte hier. C'était le sous-comité de sensibilisation du NOMCOM que Cheryl a présidé. Et aujourd'hui, dans la salle 5BC, on aura aussi une réunion ouverte avec le NOMCOM dans son ensemble. Vous êtes invités à participer si vous pouvez le faire. Donc, en définitive, c'est ce que je voulais vous dire. Et peut-être que je pourrais demander à Cheryl de continuer. Cheryl Langenor qui prend la parole. Oui, merci, Uriot. Heureusement, j'étais ravie de rentrer chez moi, tout ça disant, et de vous parler du profit de nos ressources. Ce que j'essaie de transmettre clairement aux groupes qui nous ont déjà visités et que j'essaierai de transmettre à toutes les personnes qui viendront nous voir aujourd'hui et demain, et de penser à des personnes ou vous-même même pour ces postes de dirigeants, mais qu'il ne faut pas penser seulement à des talents pour les postes d'ALAC. Donc si vous trouvez quelqu'un que vous croyez serait une personne parfaite en tant que personne indépendante pour le reste des organisations, donc la GNSO, la CCNSO, présentez leur candidature, proposez-les au NOMCOM qui va repasser les critères et on va voir si ces personnes réunissent les compétences que l'on cherche, au moins pour le conseil de direction. Mais ce qu'on a aussi mentionné lors d'une autre réunion avec les regroupements, aujourd'hui, et que je voulais partager avec vous, puisqu'à large, on est des opportunistes. Et c'est le fait qu'on veut trouver les dirigeants de la prochaine génération pour inclure les personnes plus jeunes, de moins de 25, si possible, qui travaillent dans ces positions, ces postes de dirigeants. Ce sont des critères, certainement celles dont on se sert pour sélectionner des personnes pour le conseil de direction, qui, je crois, vont revitaliser le comité consultatif à large. Si vous avez un vice-représentant très jeune. Donc, malheureusement, toutes les cartes de visite qui étaient le meilleur des mécanismes pour pouvoir distribuer ces informations sont disparues. Mais vous trouverez ces brochures-là. Vous pouvez en demander à Heidi si vous en avez l'occasion. Servez-vous de ces cartes. J'espère que ça vous aidera à communiquer avec nous. Et on veut savoir aussi quel est votre avis par rapport aux compétences et aux capacités particulières que vous croyez vous manquent ici à LAC. Et les filtres appliqués à chaque fois pour chaque élection sont différents. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui s'est déjà présenté comme candidat pour d'autres positions, encouragez-les à le refaire cette année et l'année prochaine, bien sûr. Ceci ne mesure pas votre qualité d'individu, mais c'est le reflet des critères dont on se sert à chaque année. Donc, passez ce message aux autres, s'il vous plaît, on vous en sera reconnaissant. Les critères que vous aurez que l'on sache serait utile lorsque vous répondrez les questions, Monsieur le Président, mais je voudrais aussi vous donner, dans ma capacité de probable présidente du NOMCOM l'année dernière, de m'envoyer des candidats. Vous m'avez envoyé 5 candidats, un de chaque région. Je vous le remercie. Je veux féliciter vraiment le travail que chacun a fait, mais il faut que vous en faisiez davantage, vous en faites davantage. Il y a des gens dans vos communautés qui sont bons et qui appartiennent au contexte de la société civile. On a besoin d'avoir des personnes qui ont accès aussi aux hautes échelles du monde commercial et des sociétés. Donc, je vous demande de m'envoyer au moins quelques personnes qui aient l'expérience du monde privé, que ce soit des officiers hiérarchiques, qui étaient des officiers d'information en chef, des officiers financiers en chef. Je veux ce niveau de chef, parce que les personnes dont on a besoin, c'est des personnes qui dirigent ce genre de société. Je ne veux pas avoir 5, mais 1. C'est un groupe qui travaille beaucoup au sein de NOMCOM. Ils vont beaucoup travailler pour que tout soit fait de façon transparente. Ils ont besoin d'avoir accès à ces niveaux. Merci. Merci, Cheryl. C'est Olivier Crépin-Leblanc qui prend la parole. Avant de continuer, je vais vérifier avec les interprètes s'ils peuvent continuer pendant 5 minutes de plus. 10 minutes. 15. OK. Bon, 10 minutes. Je vais dire 30, 20, 10, mais bon, en tout cas, merci. Et on s'excuse de ce retard. J'ai quelques commentaires à faire. D'abord, par rapport à la publication des cartes de rapport du NOMCOM. Je n'aime pas devoir féliciter les idées de Stéphane Van Gelder, mais en tout cas, on lui remercie de cette idée qui est excellente. Je prie aux membres du NOMCOM, puisqu'on a présenté des candidats de chaque région. Et donc, on voudrait que chaque personne soit mise dans la liste de son RALO. Et il faudrait que vous trouviez la façon de l'envoyer à la liste d'ALAC aussi, parce qu'il y a des membres d'ALAC. Puisqu'on a tant de listes, on voudrait le partager autant que possible. Par rapport à ce que Cheryl a dit, on en prend note. Merci. Et on vous passera la parole à ce point-là si vous avez des questions, à moins que Irio veuille ajouter quelque chose. Alors, Adam, Oui, je serai brève. Je m'excuse de vous interrompre. Je suis Adam Pick, le président associé. En ce moment, je comprends que toi, Matt, contrôle les écrans. Donc, est-ce qu'on pourrait ajouter un mot pour que ce soit nomcom.ican.org? Je voudrais que ce soit clair. Donc, saisis le bar Apply. Et ça vous amène directement au formulaire, à la déclaration d'intérêt et le formulaire de candidature de la déclaration d'intérêt. C'est un formulaire en ligne, mais lorsque vous saisissez les informations, ça ne va pas les garder, on s'en excuse. Mais répondez aux questions hors ligne pour les remplir plus tard, pour ne pas perdre vos informations. Il faut qu'on revienne au site du Nomcom. Et au lieu d'ajouter « apply » après la barre, il faut faire « barre suggère »,« suggest ». Et c'est ce que vous pouvez faire aux autres, à vos amis. On aimerait bien que vous le faisiez. Donc, pensez aux personnes que vous venez voir à l'AC et des gens que vous connaissez dans votre vie personnelle et professionnelle, que vous voudriez voir à la CSNSO ou la GNSO. Donc, vous pouvez recommander des personnes, vous pouvez le faire de façon anonyme ou avec vos noms pour qu'ils sachent que c'était vous qui les avez recommandés. Et les gens, en fait, aiment bien que quelqu'un pense qu'ils sont suffisamment bons pour quelque chose et pour se présenter comme candidat. Donc, vous avez ces deux choix. Vous présenter comme candidat vous-même et puis suggérer d'autres personnes pour encourager une autre personne. Merci. Merci Adam. C'est Olivier Crépin-Leblanc qui prend la parole. J'ai fait partie de Nomcom. En fait, il y a une personne ici aussi qui l'a été. Et à l'époque, un des commentaires qu'on a entendu dire était qui connaissez-vous en tant qu'exécutif qui remplissait ces formulaires en ligne. Ça fait beaucoup de temps de cela, mais on a une liste ici. Donc Jean-Jacques Supreneil ira d'abord. Merci, Monsieur le Président. C'est Jean-Jacques Subrenin qui parle. J'ai une question. Et selon la réponse, je pourrais avoir un commentaire aussi. La question est pour Uriot et son équipe. En 2009, le conseil de direction ou certains membres du conseil ont recommandé au Nomcom de demander au conseil de direction quel est le profil exact des personnes qu'ils souhaiteraient avoir dans le conseil de direction. Et je me demande quel était le statut en ce moment de cette recommandation. Si vous devez demander au directoire quel est le profil des membres qu'ils souhaitent avoir, ou alors si vous le faites indépendamment, je pourrais avoir un commentaire là-dessus. Uriot qui prend la parole. On a un profil qui vient du conseil. Et on a un profil de tous les regroupements. Et finalement, on est un comité indépendant et on prend nos propres décisions. Merci. Merci Uriot. C'est Olivier Crépin-Leblanc qui parle. Nous avons d'abord une réponse de Stéphane Van Gelder sur un autre commentaire. Oui, Stéphane Van Gelder qui parle. Merci, Olivier. J'appartiens à Nomcom et je voulais aborder ce que tu as dit sur le formulaire en ligne pour que vous compreniez le travail qu'on a fait. Bien sûr, on savait qu'on essayait de sensibiliser les gens et recruter la communauté, mais on sentait que ce n'était pas assez. Donc, on a cherché un cabinet professionnel de recrutement et pour qu'ils nous aident. Et ils ont fait le même commentaire que vous. Le fait que la déclaration d'intérêt était un problème potentiel et que pour le niveau de candidat qu'on cherchait, ce pourrait être très difficile de les faire remplir un formulaire en ligne avec les déclarations d'intérêt. Et on leur a expliqué que tous les candidats doivent agir de la même façon et passer par le même processus. Et si certains candidats doivent remplir cette déclaration, ils doivent tous le faire. Donc, ce qu'on a conclu avec eux, et c'était très utile pour nous en tant que Nomcom, et dans leur guide pour nous aider et attirer de nouveaux candidats, c'est que le processus pour la déclaration d'adhérer ne vient pas tout de suite. En fait, il faut le remplir que si on trouve que le candidat a un profil de sélectionné potentiel du NOMCOM. Et on sait que c'est un problème. En ce moment, le NOMCOM, je crois, est en train de passer par deux processus. D'une part, comme Urio a dit, on devient plus transparent. Et d'autre part, on essaie de le faire plus accessible pour les candidats. Et c'est ce que vous devez comprendre. Merci. Merci, Olivier Crépin-Leblanc. Je pense que tu parles de la transformation de nomcom.ican.org envers un autre domaine, c'est ça? Izumi? Merci, je suis Izumi Iso pour le procès verbal. Je comprends qu'on ne peut pas garder les données sur le formulaire à ce point-là, mais notre bureau de taxes du gouvernement japonais garde nos données de cette année que j'ai déjà présentées et les données de l'année dernière, si vous les saisissez correctement. Comme mycan.org, et vous pouvez modifier les parties que vous voulez. Donc, j'ai envoyé 5 ou 7 candidatures dans le passé. À chaque fois, il fallait faire couper, coller, copier-coller, et je ne le fais plus. Et si vous voulez en même temps le faire en tant que formulaire PDF, on peut le faire hors ligne et l'envoyer plus tard. Il y a d'autres moyens de complémenter ce que vous avez publié. Et je vais dire en même temps que je voudrais que l'on partage ce genre de nomcom, de ce formulaire avec Facebook, Twitter ou quoi que ce soit pour que les autres gens puissent y accéder et le connaître. Il y a de nouveaux outils en ce moment. Merci Izumi, Olivier. Avant de continuer avec Cheryl, je pense que les interprètes devraient partir déjeuner s'ils veulent bien. Merci aux interprètes, donc. Et les 2 dernières minutes, alors, 2-3 minutes de cette discussion ne seront pas interprétées. Mais c'est Cheryl qui va parler de toute façon, donc Cheryl, t'as la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci de ce commentaire. C'est Cheryl. Pour les procès-verbaux d'Internet.
Being interpreted, I can revert to my normal Australian language. Okay, right, g'day, mate. In all seriousness, Izumi, we hear what you say. It's something that we've recognised, actually, and we are using a number of social network and other aspects to do our outreach as well. The issue with the form is fixable, but is not fixable for this set of activities. It will not be a problem for next year. So we've already done the planning for remediation. So we understand how frustrating it is, but it is to be fixed and will be fixed, but cannot be done in this particular section. Thank you.
Thank you very much. Next is Rinalia Abdul-Rahim.
Thank you, Olivier. Rinalia Abdul-Rahim for the transcripts. I have a comment for my at-large colleagues. It's about quality processes. I like the NOMCOM process so much this year that I appropriated their reporting format and modified it for the committee that I led on the ALAC candidate endorsement for ATRT2. And I liked very much their confidentiality policies, and I also appropriated that and modified that for my committee. And I highly urge any future chairs of committees that will be doing vetting of candidates and that have to deal with confidential information to actually look at that precedence as a best practice, or even look at the ones that I had modified as a best practice. Thank you.
Thank you very much, Rinalia, and well done for that. And any other questions or comments around the floor? I see no one. Jean-Jacques Subrena.
Yes, just to ask for an update on numbers. Compared with other years or previous years, what's the numbers you have at this stage of your search for candidates?
Elio?
Well, we have
less numbers, let's say. I'm not going to the numbers themselves, but I mean, because I don't know, they are actually, the numbers are now increasing, growing all the time. And I think that we are getting into this last-minute rush. But my guess is that if the normal number has been 70, 80, you know, for all categories, we're not going to reach quite that. Thank you.
Thank you very much. Any other comments or questions? None. I think that one of the things which we need to get to you are the skill sets that we're really looking for. One common problem is the volume of work that the ALAC has to deal with. And sometimes this is a little bit understated. You know, oh, you can do 10 hours a month and you'll be fine. Actually, no. You have to be prepared for more than that. We do take our volunteer position very seriously here. And whilst we have had some resounding successes in some NOMCOM appointees, and I'm not going to look at them, I have to look at the ceiling, don't I? There are some resounding failures as well over the years. So we need to be quite aware of that. I can see you. There is a camera opposite there, so I can see someone waving and doing all sorts of things. Adam Peak.
Andy, so I wanted to respond to Jean-Jacques' question because this is an important thing, and it actually links with the point from Olivier about. He's talking about me. It links to his point about the skill sets that we need for the ALAC. If you go to the nominating committee website, there are the types of skills for the board that you were mentioning, Jean-Jacques. We now have a formal input from the board governance committee, and they do that each year. That was begun by you know, your term in 2009, and then it became a formal requirement out of the ATRT recommendations. There's also the process that where there's outreach to the community through various workshops. And I will send to the ALAC our latest long list of sort of ideal candidate characteristics, and you may be interested in that. It's also something that we will be updating during the workshop later, one of the open workshops later in the week. So you'll find this information on the nominating committee website. I will send you an update, and there is an opportunity for further input during the next nominating committee workshop, which I think may be Wednesday or Thursday, but yeah, thank you.
Thank you very much. And as I think we're reaching the end of this session, I see more hands coming up. So you're eating into our eating time. Jean-Jacques, and then Rinalia, and then Alan.
Thank you. This is Jean-Jacques. Actually, it's my follow-up question. I just want to make sure that, as Yurio pointed out, the independence of the NOMCOM is such that the feeling given by the Board Governance Committee does not have a negative impact on the fact that we want a board fully independent as well. Because this is, of course, although it's not nice to say so, but this could be a way of capturing part of the board, to have the board itself, the sitting board, determine and define the profile of the next board.
Thank you, Jean-Jacques. Irio?
Well, if it will be so, there will be no need for the nominating committee. I mean, all could be done by the BGC. So this is pretty much my answer. I repeat that this is an independent committee. That's the whole idea of having a nominating committee. Thank you.
Thank you. Next is Rinalia Abdulrahim.
Thank you, Chair. Rinalia Abdulrahim for the transcripts. It's about recall process for NOMCOM appointees. I know this was discussed with the last NOMCOM, and I'm not aware if there is a process, but I would urge that you do consider it for non-performing appointees because you don't want to have the communities to be stuck with people who are not able to contribute. It's just an input. Thank you.
Eriu, do you wish to respond, or should we let Stefan van Gelder? Stefan, and then Alan to clarify our rules.
Thank you, Olivier. Stefan van Gelder speaking. I think it's very difficult to measure performance of a candidate over some of the term times that we have. If you're just talking about board times, then 3 years is obviously a bit longer, but don't forget we also recruit for other positions, and those terms are shorter. They're not all the same. And it's there's no KPIs, you know, key performance indicators, for how a NOMCOM appointee will perform. So I think, you know, you have to be careful what you ask for. And I understand the issue that some, obviously, you know, past selectors have, past selectees have sometimes not measured up. That could be a lot of, there could be a lot of reasons for that. One of those could be the pool of candidates themselves. And, you know, some people, a lot of people apply for the board, not many apply for other positions. So sometimes you don't have much of a choice. So I think we want to be careful not to put too much pressure on possible candidates. At this stage, our aim is to try and get people in, not to put the bar up so high that people feel that they don't want to come in.
Thank you very much, Stefan. We've had some candidates that measured up to nil. So that's a very low bar. Alan, you wanted to just add to this?
Yeah, I originally raised my hand to ask a very quick question. Adam, you said there's a session on Wednesday where we can add to your list of stuff or suggest new things. Some of us can't attend that suggestion. Are you accepting such things via email? And if so, to what address?
Could we get back to you with the correct information?
Okay.
Yes, I promise to get back to you with the correct information.
I hear about 100 different email addresses.
We'll get the address later.
This is Matt for the record. It's nomcom13@icann.org.
Okay. Thank you very much, Matt.
In response to the issue of recall, the board, the GNSO, and now as of a few days ago, the ALAC, have internal procedures by which we, all of us, could remove a NOMCOM appointee should we choose to take such a radical position. Replacing that person is not at all clear how that happens, but that's a different issue. We have a procedure, just as the GNSO in its last rules of procedure put a procedure in for removing NOMCOM appointees, and the board can remove anyone except the GAC liaison in the bylaws.
And with this happy note of removing people... Well, at least we have not said terminating people. That's one step. I invite you all to finish this session and get some food before we reconvene this afternoon at 1400 hours, I believe. Bon appétit to everyone, and this session is now finished. And thank you very, very much, Elio, for having spent the time with us.
Thank you.